Bienvenue au Livre sur les quais, pour ceux qui n'arrivent que maintenant, ce qui serait pas une surprise vu la notoriété de notre... Asseyez-vous. Enfin, je vous présente plus Bernard Werber, mais je vais vous le présenter quand même. Bernard Werber est né à Toulouse, ce qui démontre qu'au-delà de la magnificence de cette ville, il n'y a pas que Claude Nougaro à Toulouse. Ensuite, il a commencé par une carrière qui était destinée au dessin, à plein de choses de ce genre, avant de se mettre très vite à l'écriture, suite à une affaire de, je pense, on peut appeler ça une rédaction scolaire, où vous aviez imaginé une puce qui parcourait le corps d'un être vivant. De la puce, évidemment, on est très vite passé, après ses études, à la fourmi. Mais entre-temps, vous avez fait une longue carrière, enfin une brillante carrière de journaliste, à VSD ou dans différents journaux de reportage. D'ailleurs, durant un de ces reportages, que vous avez à faire un reportage sur les fourmis, qui vous a sans doute aidé à ensuite imaginer cette incroyable trilogie qui vous a rendu célèbre dans beaucoup de pays, vu que vous avez vendu cette trilogie, si je ne me trompe pas, à plus de 20 millions d'exemplaires aujourd'hui. Votre œuvre est aujourd'hui, on va dire, protéiforme. Elle va dans différents genres, du genre de la science-fiction, du genre presque du roman policier. Vous avez fait des études, d'ailleurs j'aimerais vous interroger là-dessus, de criminologie, si je ne me trompe pas, ce qui est un peu un parcours atypique pour quelqu'un qui veut devenir soit journaliste, soit écrivain, soit qui a même imaginé à une époque être peintre. Vous avez écrit des chansons pour une rockstar comme Louis Bertignac, qui fut l'un des leaders du fameux groupe Téléphone. Vous avez fait un long-métrage qui a été produit par Claude Lelouch, dont d'ailleurs à certains égards l'univers peut se rapprocher du vôtre dans certains films. Je trouve qu'il y a en tout cas des questionnements sur le devenir humain qui sont parfois plus cousins qu'on peut le penser. Si vous êtes là, c'est notamment pour le troisième volume de La Voix de la Terre, donc du cycle Troisième Humanité, qui est un de vos cycles actuels, je crois que c'est le livre final, qui est un livre, là aussi, protéiforme. Vous mélangez les genres entre la science-fiction, les extraits de journaux. Il y a toujours votre personnage récurrent qui est Edmond Wells, qui traverse aussi, de toute manière, toute une série de livres. Alors, ça sera une des questions qu'on vous posera. Edmond Wells, c'est vous, diront certains. C'est votre manière d'imaginer une sorte de grand ordonnateur des choses à travers ce livre qu'il est supposé avoir écrit. Vous avez d'ailleurs fini par écrire, d'ailleurs, pour qu'il existe en réalité, qui, si je ne vais pas bousiller le titre, c'est le célèbre... Voilà, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, qui a fini par sortir, à force d'exister d'abord sous forme de citations diverses et variées dans les différents livres qui nous occupent. Alors, ma première question, c'est au fond... comment vous êtes-vous retrouvé un jour à vous dire « Tiens, mais je passe d'une carrière de journaliste qui se passait très bien, vous avez eu des prix, notamment pour ce fameux reportage où il s'agissait de fourmis. Comment est-ce que vous êtes arrivé à l'idée un jour de vous dire « Bon, je vais écrire un livre sur les fourmis, en plus un pavé, etc. » Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Est-ce que c'était un cheminement très logique ou bien ça a été à un moment donné une sorte de besoin? Comment vous êtes arrivé à l'écriture?
Pourquoi j'écris les fourmis, vous voulez dire?
Oui, pourquoi vous avez écrit les fourmis? Parce que c'est pas un livre tout à fait typique, donc je me dis, qu'est-ce qui vous a pris? Tous les éditeurs ont dû vous dire non.
Je me suis dit, quel est le sujet le plus inintéressant?
Voilà, c'est ça. Voilà.
Mais réellement, en plus, je me suis dit, quel est le challenge, le truc qui vraiment intéressera personne. Et je me suis dit, les fourmis. Pourquoi les fourmis? Parce qu'elles font pas de miel. Donc, par rapport à l'homme, elles n'ont aucun intérêt. Et elles, contrairement aux moustiques ou aux mouches, elles transportent pas de maladies. Donc elles nous font ni du mal ni du bien. C'est un animal neutre. C'est juste qu'on n'aime pas l'avoir dans notre cuisine parce qu'on se dit, on n'aime pas avoir des trucs vivants dans la cuisine de manière générale. Donc ça me semblait un challenge. Je me suis dit, si j'arrive à intéresser les gens au truc le plus inintéressant, a fortiori, je pourrais les intéresser à n'importe quoi. Cela dit, en étudiant les fourmis, je me suis aperçu qu'elles étaient réellement intéressantes. Mais au début, quand j'ai démarré, pour moi, c'était juste un truc que je croise de temps en temps dans les jardins et qui, a priori, ne devrait intéresser personne.
Mais vous aviez un goût pour la science, parce que c'est presque une blague de dire que je me suis demandé quel était le sujet le moins intéressant.
Je vais vous dire, je ne sais pas si ça vous parlera, mais quand j'étais petit, je disais science et vie et pif gadget. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Après, je suis rentré dans des clubs d'astronomie. Mm-hmm. Alors, j'allais regarder les étoiles la nuit. C'est-à-dire là où tous les autres enfants regardaient la télé, moi, je restais dans le télescope. Et puis, j'étais un enfant très solitaire et qui lisait des livres et qui en écrivait. et puis qui répond à la question que vous me demandez, off, ne jouez pas au football, et qui veut dire, si je ne joue pas au football, je ne fais pas partie de la bande des copains à la mode de la classe, et j'ai une place à part, qui est celle du barde, c'est-à-dire, je parle des livres que j'ai lus, et je raconte des histoires. En fait, je crois que le métier que je fais, c'est la prolongation d'un métier très ancien, qui est le métier de conteur autour du feu. D'ailleurs, je crois qu'il y a encore des festivals de conteurs, même chez vous. Et qui m'a l'air la vraie base du métier. C'est-à-dire, là, on ne peut pas tricher. Vous prenez les gens, vous leur dites « il était une fois » ou alors « je vais vous raconter l'histoire de grand-père ». Votre grand-père, les petits-enfants, c'était pas n'importe qui, il a voyagé et il a rencontré en Inde. Voilà, et vous démarrez. Et puis là, les gens, ils sont là. Alors ça a dû démarrer à la préhistoire, les gens qui racontaient les chasses. Alors la chasse au mammouth n'a pas été facile. Si on a perdu York, Blur, Gaisblur, c'est peut-être pas un hasard. Et pourtant, on était 50. Mais ce mammouth, c'était vraiment une bête extraordinaire. Alors on dessine le mammouth, d'où le dessin. Et après, on raconte l'histoire. Et ma fonction est une fonction de conteur, donc je me sens pas du tout écrivain, je me sens plutôt auteur, et je crée des mondes, et je raconte des histoires, et je trouve que c'est beaucoup plus puissant que juste faire du texte qui fait des pages, qui fait un bouquin, qui fait un truc, qui une sorte de rédaction, quoi. L'objet lui-même, enfin, mon métier c'est écrivain, mais auteur... Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup dans le mot auteur, c'est que ça vient d'une source latine qui est auction, octus, qui a donné en anglais auction, c'est-à-dire les enchères, augmenter. Et l'auteur, c'est celui qui augmente. Donc, qui est censé augmenter, j'espère, la conscience du lecteur ou l'intelligence du lecteur. Mais pour moi, c'est un travail d'augmentation. Il y a un autre mot aussi que j'aime bien, c'est élève. Le professeur et des élèves, c'est la personne qui doit élever. Donc, la personne qui connaît l'histoire du mammouth et de la chasse va élever les autres, va les augmenter pour qu'ils sachent ce qui se passe quand on va à la chasse au mammouth et que Zorg est mal placé et qu'il se prie un coup de sabot. Voilà. Et donc, ce métier est un métier, en fait, qui a une fonction d'apaisement. Je dirais l'apaisement. Pourquoi il y a un type qui racontait des histoires près du feu? Parce que ça faisait du bien au groupe. On croit souvent que les êtres, les animaux ont besoin que de manger et d'abri et de protection. Non, ils ont besoin, nous avons besoin, socialement, nous avons besoin organiquement qu'on nous raconte des jolies histoires. Moi, j'ai eu la chance de lire Jules Verne, Edgar Poe, de lire, quand j'étais jeune, tous les grands récits, toutes les grandes sagas, y compris la mythologie, y compris tous les textes anciens. Et j'ai reçu tellement de plaisir à lire ça que je me suis dit, j'ai envie de retransmettre cette joie, ce plaisir aux autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur les fourmis, en me disant, je vais faire une grande saga, une grande histoire, avec beaucoup, beaucoup d'événements, des décors, de l'action, du suspense et tout, en utilisant le truc qui a l'air le plus difficile, qui est les fourmis. Et j'ai mis 12 ans à arriver au bout.
Vos parents faisaient quoi? C'est un univers, la science, il y a de l'ésotérisme chez vous, il y a de la philosophie, il y a l'envie de s'interroger sur des questions importantes, comme la mort. Là, le livre commence, ils sont en train de se prendre une météorite sur la figure, je crois c'est quand même un livre, bon, où il y a quoi, 7 milliards de morts, si je ne me trompe pas, à peu près.
Je sais plus, je n'ai pas compté.
Oui, à la fin, ça finit par la Troisième Guerre mondiale. Et en tout cas, on en est, je crois.
Non, mais ça finit bien déjà.
7 des 11. Oui, non, enfin, si vous trouvez que 4 milliards de survivants sur 11 milliards de terriens, c'est une bonne nouvelle.
Ah oui, vrai, non, mais vous n'êtes peut-être pas arrivé jusqu'au bout. Après, ça s'arrange.
Oui, ça s'arrange. Mais enfin, quand même.
je vois votre signé. En effet, vous êtes en plein dans la zone chaude. Alors, mes parents. D'abord, j'ai eu la chance de ne pas avoir des parents célèbres. Je dis ça parce que je croisais le fils de Guy Descartes et je me suis dit, ça va être très dur quand le papa est célèbre. Va te faire un nom après dans le même truc. Et ici aussi, il y a Frédéric Dard aussi qui a son fils en Suisse, qui est aussi écrivain. Comment exister quand papa est le grand arbre? Donc j'ai eu la chance de ne pas avoir des parents célèbres. Par contre, j'ai une maman qui était prof de piano, qui m'a donné le goût de la musique et de l'écriture, et du dessin, et un papa qui était fasciné par les civilisations romaines et grecques. Donc j'ai appris très rapidement le latin et le grec, des trucs qui servent à rien. Je crois qu'on étudie encore le latin et le grec, langue morte.
Oui, un petit peu, oui, mais on a les mêmes débats, évidemment, que vous les avez actuellement en France. On n'a pas
C'est vrai que ça sert à rien.
On n'a pas de Najat à qui faire porter le chapeau, si j'ose dire, mais les débats sont cousins.
Mais J'étais fasciné par ces deux civilisations. Après, j'ai découvert les Indiens, j'ai découvert la Chine, j'ai découvert les autres civilisations. Mais vu que c'est ce qui nous a construit, surtout les Grecs, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. La mythologie grecque m'a semblé tellement riche en archétypes, en clés pour comprendre les grands thèmes du monde. C'est pas un hasard. Pour moi, la psychanalyse est née de la compréhension d'une histoire qui est Œdipe. Et on voit la puissance de la compréhension d'une mythologie. Et après, donc, j'étais nourri de ça. Et très vite, j'ai eu envie de rayonner, enfin, de rendre la lumière que j'avais reçue. Et puis d'interpréter aussi ces mythologies. Je crois que on peut comprendre des choses qui nous arrivent actuellement en allant chercher dans le passé lointain les clés. Par exemple, la chute de l'Empire romain ou la chute de l'Empire grec doit nous donner à réfléchir sur notre possibilité nous-mêmes de connaître une période de décadence et nous donner une perspective, de telle manière que nous ne reproduisions pas les mêmes erreurs que nos ancêtres. Vous savez que, par exemple, il y a un gars que j'ai lu récemment sur... Après, on va revenir au livre. Mais les Romains ne se sont même pas aperçus de la chute de l'Empire romain. Je racontais comment ça s'est passé, parce qu'on
les Russes,
on l'ignore.
Oui.
Les Russes?
Non, la fin de l'Empire soviétique. Mais...
Ah oui, alors la fin de l'Empire soviétique, oui, parce qu'on communiquait. Mais chez les Romains, ça s'est passé, d'ailleurs, dans le nord de l'Italie. Le dernier empereur s'appelait... Attends, comment ils s'appelaient les deux premiers qui ont créé...
Rome,
Romulus et
Rémus.
Rémus. Alors, et celui qui a été tué, c'est... Parce que j'ai pas de mémoire, par contre.
C'est Rémus qui s'est fait.
C'est Rémus. Donc celui qui a survécu, c'est Romulus.
Oui.
Et ben, le dernier empereur s'appelait Romulus. Il avait 13 ans et il s'est fait poursuivre par un Visigoth dans la cuisine. Il était sous la table et lui a dit tu fais ta reddition ou alors je te tue. Mais si tu fais ta reddition, je te paye des vacances et tout. Et le gosse a signé la reddition. Et c'est ça, officiellement, la fin de l'Empire romain. Et à Rome, ils étaient même pas au courant. Ça s'est passé dans le nord d'Italie. Donc tout ça pour dire qu'il y a un moment, la décadence, on s'en aperçoit même pas. Et la fin, on s'en aperçoit même pas. Donc il faut, et alors c'est ça l'intérêt de l'écrivain, offrir cette perspective du temps, dire, regardez, ça s'est passé comme ça avant. Actuellement, il me semble que c'est ça. Et dans le futur, ça se peut que ça soit ça. Et vu que peu de gens osent parler du futur. C'est notre fonction à nous, auteurs dits de prospective ou de science-fiction, d'essayer d'avoir une vision sur le futur. Mais vous évoquiez la Troisième Guerre mondiale, par rapport à où les météorites qui tombent sur la Terre. Je dois dire, c'est juste pour montrer que il peut nous arriver ce que je vais appeler des régulateurs de démographie humaine, comme il y en a toujours eu avant, et ça fait partie d'une certaine logique. Mais nous, on crie à la catastrophe, mais ça peut être nécessaire à la survie de la planète. Nous sommes la première génération à ne pas avoir eu de grande épidémie. La dernière épidémie, c'est 1919, l'épidémie de grippe espagnole. Donc, déjà, on est très privilégiés, mais il fallait se rendre compte que l'épidémie de grippe espagnole a fait plus de morts que 14-18, enfin que la Première Guerre mondiale. Donc, c'était vraiment... Ce qu'il y a, c'est que vu que ça est arrivé durant la Première Guerre mondiale, on n'a pas communiqué dessus. Parce que tout...
Ça a été qu'un phénomène de plus, au fond. Ça a été noyé dans les stats.
Oui, voyez, mais c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, quand on n'a pas de perspective, on est aveugle. Et c'est à nous, auteurs, de rendre la perspective. Vous savez pourquoi ça s'appelle grippe espagnole ? Ben oui, je le dis dans le livre. En fait, c'est parce que, vu que tous les... C'est une grippe qui vient de Chine, et qui a touché, qui a touché plus spécialement la France et l'Angleterre, l'Espagne n'étant pas spécialement touchée. Mais il s'avère que la France et l'Angleterre étant en guerre contre l'Allemagne, il fallait pas démoraliser les troupes en leur disant qu'en plus il y avait une épidémie et que s'ils voyageaient, ils étaient en train de diffuser le virus. Donc, on a considéré que c'était un secret de guerre. Et donc, ils n'ont pas du tout informé sur les dégâts de la grippe espagnole. Et c'est pour ça que ça fait autant de dégâts. Mais en Espagne, qui est un pays neutre, eux, ils ont vu arriver la grippe, ils ont dit, nous avons une grippe qui fait beaucoup de morts chez nous. On a dit, ah, ils ont une grippe. Bon, c'est la grippe espagnole. Voilà. Vous dire à quel point le système est... On a l'impression que tout est translucide, et puis pas du tout, c'est opaque. Donc c'est à nous d'offrir, nous les auteurs, d'offrir des outils de vision. Et là, ce que je propose, c'est une vision dans 20 ans, dans la voie de la Terre. Et j'imagine que nous serons très nombreux, et qu'étant très nombreux, nous aurons épuisé notre planète. Et puis, ayant épuisé notre planète essaie de communiquer avec nous et essaie de se défendre de nous. Ce qui est la fonction de tout organisme. En fait, la grande idée de la voie de la Terre, c'est Notre planète est vivante, elle est intelligente, elle est consciente, et elle est un peu comme un chien qui est recouvert de puces. Alors un peu de puces, ça gratte, beaucoup de puces, ça gratte beaucoup, et quand il y a beaucoup, beaucoup de puces, eh bien avec la patte, elle fait ça. Et nous, on appelle ça un séisme, ou on appelle ça un tsunami, on appelle ça un tremblement de terre. Et on se dit, oh là là, c'est terrible ce qui nous arrive. Mais si on n'était pas aussi nombreux, il n'y aurait pas de réaction du chien. Et le chien, au moment où il fait ça, il se dit pas, il faudrait peut-être que toutes ces puces pensent à se raisonner pour contrôler leur croissance démographique. Il se dit juste, ça gratte, je réagis. De toute façon, alors ça c'est une loi de physique, toute action entraîne une réaction. Nous sommes en train de détruire la planète, je trouve normal que la planète se défende. Après, ce qui est formidable avec l'être humain, c'est qu'il y a toujours un moment, une fois qu'on est allé au bout de nos bêtises, où tout d'un coup on devient raisonnable, et à ce moment-là, tout d'un coup on dit, ah bon sang, il fallait faire ça. Et là, les prochaines générations font mieux que nous. Et c'est pour ça que moi je ne crois pas à la tradition, mais je crois à l'élévation, c'est-à-dire on s'améliore, chaque génération fait mieux, tire leçon des erreurs précédentes et essaie de ne pas les refaire et de faire mieux.
Bon, ce que vous avez dit, il y a 1000 questions qui me sont venues.
Ah ouais.
Désolé. La première est assez simple. Au fond, bon, aujourd'hui vous êtes un des auteurs français les plus dans le monde. Quand vous avez écrit Les Fourmis, vous dites bon, ben voilà, je vais raconter une histoire. J'entends tout ce que vous dites sur cette merveilleuse fonction d'auteur et d'élévateur, mais au fond, c'était pas gagné. C'est-à-dire, comment vous avez pris ce séisme qui a été ce livre tout à coup en un livre, en une trilogie. Ensuite, vous êtes devenu presque instantanément. C'est quand même pas si banal. Il y a des auteurs d'ailleurs du coup. La critique vous a pas toujours ménagé. En tout cas, en France, il y a des pays où vous êtes un dieu vivant, comme en Corée du Sud, on vous considère vraiment comme quelqu'un de très très visionnaire. En France aussi, mais ils sont plus rares. La critique fait pas tellement toujours attention à vos livres. La science-fiction en général est souvent déconsidérée dans le domaine francophone. Comment vous avez est-ce que vous avez quand même, je veux dire, été surpris de ce putain de triomphe qu'a fait Les Fourmis, qui a quand même après lancé toute une affaire?
Non. J'ai pas été surpris. Je vous dirais, je m'en suis jamais aperçu. Mais ça glisse sur moi. C'est-à-dire, il y a une chose, c'est la reconnaissance du, enfin, tous les côtés, grand écrivain, qui me concerne pas. Moi, mon souci, c'est de faire une bonne histoire et de trouver des lecteurs. Et c'est pour ça que je viens ici, pour les rencontrer. Mm-hmm. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que le petit monde germano-practin, c'est un petit village, vous savez, de crabes, dans lequel ils s'entretuent en permanence. Donc, je vais pas jouer avec eux. Donc, c'est normal que, vu que je joue pas avec eux, ils s'intéressent pas à moi et je m'intéresse pas à eux. Et qu'on leur demande leur avis sur mon bouquin, ils disent, ah, ben, il fait pas partie de notre club. Ben oui, mm-hmm. J'en fais pas partie. Et j'en suis très content. Et je veux pas des prix. Et je veux pas des félicitations. Je veux pas rentrer à l'Académie française.
Regardez Houellebecq, il adore la science-fiction. Vous devriez être pote.
Alors, je suis pas fan de Houellebecq, mais il adore la science-fiction. Mais c'est très triste et c'est très glauque. Moi, je crois qu'il peut y avoir une science-fiction un peu lumineuse. C'est-à-dire aux gens, allez vous suicider, mais plutôt, on va s'en sortir, quoi.
Bon, voilà, il y a quand même 7 milliards de morts, je le rappelle quand même.
Mais c'est pas le suicide, c'est
non,
de la...
Non, d'accord.
Et il y a des survivants, il y a 3 milliards de survivants.
C'est après. Non, alors, c'est aussi une chose, qui m'intéresse beaucoup, parce que, il y a des gens qui sont venus ici, et puis en face, il y a Eric Emmanuel Schmitt.
C'est moins bien, ici, c'est mieux. C'est bien fait.
Moins bien.
Je vous félicite.
Mais je mets deux choses en rapport. Parce que vous êtes, j'en ai parfois parlé avec lui, il a aussi cette capacité d'optimisme, en gros, en disant, si je résume les choses, qu'il n'y a pas plus de réalisme à être optimiste qu'à être pessimiste. Au fond, le pessimiste est quelqu'un qui se protège, au fond, parce que quand vous dites que tout va finir par aller mal, si ça va finalement bien, personne ne vous reprochera de l'avoir proféré, ça, on imaginera que c'est même une posture de prudence. Tandis que si, évidemment, vous dites que tout va aller bien et que ça tourne mal, statistiquement, vous avez à peu près autant de chances, mais évidemment, on vous accusera d'une sorte de naïveté. Alors, d'où vous vient, parce que c'est fascinant quand même, vous dites, c'est quand même une histoire où on commence par se dire, est-ce qu'on envoie une bombe atomique sur la météorite qui nous fonce dessus, tout le monde va mourir, et puis ensuite, on évite le problème, mais il y a une troisième guerre mondiale qui se met par-dessus, bon, il y a quelques
milliards de morts. Je suis fondamentalement
optimiste. Comment vous conservez cette capacité de foi en l'homme, ce que vous avez dit avant, sur le fait que chaque génération trouve une solution, il y a chez vous une volonté.
Parce que j'ai observé la nature. Et la nature, elle fonctionne avec une notion qui me semble digne d'être mise à la mode, c'est l'harmonie. Quand quelque chose fait un trop, la nature le redescend. Donc l'homme étant trop, Donc la nature va le redescendre. Quand vous parlez des choses, ça donne la vision que c'est un roman noir, alors qu'au contraire...
Non, c'est pas ça, mais j'ai
quand même... C'est le roman d'une rencontre.
Passer comme chat sur braise sur un certain nombre de cadavres.
Ouais. Oui, mais allumez les actualités, vous allez voir ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe dans le quotidien et dans le réel. Non, ce que je crois, c'est que nous avons, notre génération, un joli rendez-vous à avoir. Et ce rendez-vous, c'est la rencontre avec la planète. Et la rencontre avec la planète, pourquoi ? Parce qu'on a toujours considéré que c'était une sorte de masse dans laquelle on prend de l'énergie, on prend la matière première, on prend le pétrole, ce que j'appelle son sang, et comme des moustiques, là, parce que pour prendre l'exemple, ou des puces même, et que ça ne peut pas être anodin. Mmh. Tout ce pétrole transformé en fumée et qui sert juste à aller du point A au point B, du point B au point A, c'est pas normal. Tout ce gaspillage, là, j'ai pris l'avion, là, tout, on nous donne, pas l'avion, j'ai pris le train, et on nous donne des barquettes avec tous ces trucs à jeter en plastique. C'est pas normal. Il y a un moment, on va s'apercevoir que notre génération, on a été des super gaspilleurs, et on a énormément pris sur la planète sans jamais se dire comment elle vit. Et moi, ce que je dis dans La Voix de la Terre, c'est que mon héros, David, va se mettre en contact avec la planète, et ils vont créer le dialogue, et enfin la planète va dire voilà comment je vous perçois, et lui va se présenter, voilà qui nous sommes. Et maintenant on va se dire, on a fait des erreurs dans le passé, essayons de pacifier, de traiter, de faire un traité de paix dans lequel on dit qu'on se respecte mutuellement, comme nous devons respecter les autres formes de animal et végétal, et qu'on ne pourra pas, comme ça, détruire toutes les forêts. Moi, j'ai été en Malaisie, j'ai vu comment ils détruisaient tout, des forêts entières remplacées par l'huile de palme pour faire nos petits biscuits, hein, pour faire notre nourriture qui va nous créer des allergies en plus. Bon, j'ai vu en Amazonie comment ils détruisent tout le bois pour faire précisément cette charpente.
C'est du bois suisse.
Oui, je sais. Non, c'est moi qui culpabilise parce que j'ai mis un parquet avec du bois. Je suis pas parfait, hein. Mais là, il y a quand même beaucoup de bois suisse là. Ça a l'air solide. Mais on est quand même en train de détruire. C'est-à-dire, on peut détruire et laisser le temps à la nature de reconstruire. Mais là, on va tellement vite, on laisse plus les poissons refaire des petits. Vous savez, il y a ces gros bateaux japonais qui sont des tonniers et qui ramènent des tonnes et des tonnes de poissons. Et à un moment, la nature a besoin qu'on lui foute un peu la paix pour qu'elle se renouvelle. Le principe de la jachère, ce qui est une trouvaille de l'Antiquité, qui est on divise le champ en quatre et puis on laisse un petit bout respirer pour que la terre se reconstitue. Maintenant, on veut pas laisser la terre se reconstituer, donc on rajoute du fertilisant. Résultat, il y a plus de matière organique et la nourriture qu'on mange n'a plus d'énergie de vie. C'est-à-dire, elle a perdu son, les Chinois appellent ça le ki, c'est-à-dire son énergie vitale. Et on est obligé après de prendre des petites pilules pour arriver à retrouver le truc. Donc il y a quand même un problème. Alors on vous dit, oui, on peut augmenter la production. Oui, mais de quel produit ? Alors on se retrouve avec des produits bio, mais alors c'est très cher, c'est que pour les riches. Donc en gros, notre société va pour, si vous êtes riche, vous prenez de la nourriture dans laquelle il y a encore de l'énergie vitale. Et si vous êtes pauvre, vous avez de l'énergie, vous avez des baisses de vitamines. On est loin du bouquin là, tout d'un coup j'ai dévié un peu. Bon, tout ça pour dire que là, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis, et c'est cette branche, c'est la planète, et cette planète est formidable. Moi, je suis amoureux de cette planète, j'adore. Je trouve qu'elle est diversifiée. Pourquoi il y a autant de formes végétales? Pourquoi il y a autant d'animaux? Elle est ce principe des saisons. Vous savez, il y a pas beaucoup de planètes qui ont quatre saisons. La plupart des planètes, elles sont fixées, soit il fait très froid, soit il fait très chaud. Il n'y a pas des alternances dans les différentes zones et tout. Elle a la bonne inclinaison, elle a de l'eau, elle a de l'air, elle a une atmosphère. C'est vraiment génial. Et je suis persuadé qu'il n'y a que sur Terre qu'il y a de la vie. Ce qui veut dire que si on rate
vous
ici...
Vous qui êtes un fanatique de science-fiction, vous ne croyez pas à la vie sur les autres planètes.
J'ai fait plein de livres sur les extraterrestres, parce que c'est un vœu pieux. On espère qu'il y aura des extraterrestres. Mais s'il le faut, pour l'instant, on n'en a trouvé aucun. Donc s'il le faut, il n'y en a pas. Et donc ça veut dire que si jamais on fout en l'air cette planète, il n'y aura plus rien.
Dans les mille choses qu'il y a à dire sur votre œuvre, dans ce livre comme ailleurs, c'est aussi une certaine forme mais une spiritualité qui peut être celle de la Terre, qui peut être celle de vos personnages, qui peut être celle d'un questionnement sur notre existence. Et évidemment, sur la mort, vous avez notamment écrit ce livre formidable. Moi, je me rappelle, j'en ai un souvenir absolument lumineux qui était Les Thanatonautes. Et donc, est-ce qu'une part de votre optimisme vient pas dans cette, euh, dans cette croyance que vous avez quand même, d'une façon ou d'une autre, dans une vie après la mort ou dans une spiritualité qui puisse nous élever. C'est parce qu'évidemment, comme souvent les religieux ou les gens qui sont épris de spiritualité sont presque naturellement plus optimistes. Parce qu'on se dit, bon, alors, on est là de passage, mais quel que soit le passage, il se passe quelque chose, c'est pas vain. C'est pas juste 180 ou 100 ans si on a de la chance. Enfin, ça dépend si on appelle ça de la chance. Mais,
Alors, je vais rebondir. J'ai plusieurs angles de rebondissement. J'ai l'impression que c'est partie d'échecs, en fait. Je joue beaucoup aux échecs et je me dis...
C'est les sept visions heptagonales échecs.
Mais je me dis, tiens, là, il me fait secoue, donc je peux ouvrir avec le cheval, je peux faire... J'ai différentes variantes et je me dis dans la tête, je scanne les différentes possibilités. Non, si je veux dire une chose, c'est que je crois qu'il y a une opposition entre religion et spiritualité. La religion, c'est tout le monde qui se met à répéter le même truc. La spiritualité, c'est vous qui trouvez votre voie personnelle. Après, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont des voies personnelles similaires. Moi, je suis allé les voir toutes, je les ai étudiées, j'ai essayé de les comprendre. Celle qui m'a apporté le plus de choses rigolotes, c'est le bouddhisme, qui n'est pas d'ailleurs une religion, mais qui est plutôt une forme de philosophie, tout simplement parce qu'il y avait un truc vécu qui s'appelle la méditation, et que je me suis tout de suite dit, tiens, si je reste calme pendant 5 minutes sans bouger, je sors de l'agitation du monde. C'est aussi simple que ça. Alors, ce matin, je suis resté 10 minutes immobile, sans bouger, hein, essayer de faire le vide sans y arriver dans ma tête. Alors je vous signale aussi, pour ceux qui veulent faire la méditation, tous se disent « j'y arrive pas ». Je vous rassure tout de suite, personne n'y arrive. Voilà, c'est le grand secret. Par contre, c'est le
méditer
fait...
Méditer là-dessus.
Voilà, mais c'est le fait d'essayer qui déjà vous apporte... qui c'est qui médite ici? Ah ouais, je pense qu'en Suisse, il y a une plus grande proportion de méditants qu'en France. Et je crois qu'au Canada, il y en a encore plus dans les zones francophones. Bon, en tout cas, il y a des petites choses qui me semblent intéressantes à transmettre dans mes livres, qui sont notamment la perception qu'on a des sens. Je veux dire, on a 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, tout ça. Et on a des sens internes, l'imagination, la création, la sensibilité. Toutes ces choses-là peuvent s'entretenir. Moi, j'entretiens en écrivant des livres, mais vous pouvez le faire aussi. En fait, quand j'écris un livre, je me dis tout le temps, pourvu que mon livre apporte quelque chose au lecteur, et fasse que le lecteur, après, ait envie lui-même, peut-être d'écrire des livres, peut-être de vivre autrement, peut-être de prendre un peu de perspective sur sa propre vie. Je crois qu'une vie ratée, c'est quand on est un peu crispé sur le volant, en train de regarder juste que devant les phares, et de se dire, pourvu qu'il surgisse pas quelque chose avec lequel je vais avoir un accident. Et là, on est juste angoissé, et quand on arrive au bout du chemin, on fait juste, j'ai pas eu d'accident. Et là, on a raté toute la perspective, parce qu'il y avait un panorama tout autour, et on n'a pas bien vu, et en fait, il y avait plein de choses passionnantes autour, et on aurait pu avoir un accident, mais peut-être qu'en regardant autour, on aurait eu l'accident, mais malgré tout, ça valait le coup. Et voilà, j'essaie d'offrir cette perspective. Ne percevez pas vos vies comme quelque chose de petit et d'étriqué, mais peut-être percevez-vous comme faisant partie de quelque chose d'immense et de merveilleux, qui est la vie, qui est cette planète, dans laquelle vous n'êtes pas coincé que dans votre petit crâne, vous n'êtes pas coincé que dans votre petite vie familiale et professionnelle, vous avez des possibilités immenses. Et moi, je les explore en écrivant les livres. Alors, si vous dites c'est la spiritualité, oui. Enfin, ça me semble plus de la spiritualité que de la religion. Maintenant, j'allais dire, tout le monde doit être spirituel. C'est quoi des gens pas spirituels? C'est des gens qui pensent qu'à l'argent et au pouvoir et au plaisir de faire chier les autres.
On en a en Suisse.
Ouais, bon, moi, j'essaie de pas les fréquenter. Mais quand je travaillais en journaliste, il y en avait beaucoup quand même. Mais c'est des personnalités étriquées. Moi, je les plains surtout. C'est-à-dire, ils ont des petites vies, ils ont des petites ambitions. Au mieux, ils les réalisent et puis ils vont se retrouver avec... Quand j'étais au Nouvel Obs, je vais vous dire quelque chose, je pense qu'il n'y a pas de journaliste de l'Obs, ils terminaient tous alcooliques. Je me suis dit, mais c'est quoi? Quel est le lien entre un métier merveilleux qui consiste à faire des reportages sur le monde et terminer à les épaves? J'avais marché une fois sur mon chef dans le noir, je n'avais pas vu. Je fais un truc, c'était mou. Et j'étais sur le point de glisser, je fais, ah, un patron. Alors, c'était à l'époque de Geoffrin, mais c'était mon chef direct. Mais... C'était un milieu de gens malheureux et qui disaient le contraire de ce qu'ils pensaient vraiment. Au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas pouvoir déployer mes ailes là. Donc je crois que tous, on doit se poser cette question. Est-ce que je suis dans un endroit où je peux déployer mes ailes? D'abord, est-ce que j'ai des ailes? Mais ça, c'est le premier travail, justement, c'est un travail d'introspection, essayer de se comprendre soi-même. Et la plupart de mes personnages dans mes romans sont des gens qui essaient de comprendre pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont comme fonction, et comment faire pour déployer leurs ailes et avoir du plaisir à planer. Maintenant que vous me le dites, une autre chose qui me fait rebondir, l'un des films qui m'a vraiment changé et m'a ouvert la spiritualité, c'est Jonathan Livingston, Le Goéland. Je sais pas, qui c'est qui a vu ça? Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de voir ça.
Très belle musique de Neil Diamond.
Alors j'avais commencé à écouter la musique, je trouvais ça super. Je suis allé voir le film en me disant, je vais voir l'illustration d'image de la musique. Et ce que j'ai vu, c'est un goéland, enfin ça m'a l'air une allégorie à Bouddha, à Jésus, à les prophètes, à tous les grands philosophes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui tout d'un coup a compris qu'il peut y avoir une quête personnelle qui consiste à voler de mieux en mieux. Et que cette quête personnelle n'a rien à voir avec l'approbation ou la non-approbation des autres.
Très bouddhiste.
C'est très... je pense que même les Pythagores racontaient des trucs pareils, même Moïse racontait des trucs pareils. C'est-à-dire tous les gens qui ont pris un peu de perspective et ont réfléchi, se sont mis à cette conclusion. On a quelque chose à faire. Et ce quelque chose, il ne faut pas attendre d'avoir ni les parents, ni les instituteurs, ni le mari, ni la femme, ni les enfants, ni le système qui nous disent ce que c'est. Il faut se questionner soi-même. Est-ce qu'on est à sa place? Est-ce qu'on fait la chose qui nous réalise? Est-ce qu'on est heureux? Est-ce qu'on est en couple avec la bonne personne? Est-ce qu'on est en phase avec la nature? Et ces choses-là, la meilleure manière d'y arriver, ça consiste à se promener en forêt. Quand vous promenez en forêt, tout d'un coup, vous ne voyez plus tout le temps des têtes, tout le temps des voitures qui klaxonnent, tout le temps des maisons, tout le temps vos chefs, vos collègues qui vous expliquent que vous auriez dû faire autre chose que ce que vous avez fait, que vous pouvez améliorer. On ne vous prend plus la tête. Et là, vous avez des petits oiseaux, le vent, les feuilles, et vous rappelez, vous êtes juste un être humain, vivant, sur une planète. Cette planète est formidable. Et maintenant, trouvez en quoi... Ce que vous pourrez faire d'intéressant.
Il y a plusieurs cycles. Moi, ce qui me fascine aussi dans votre œuvre en général, c'est que tout se répond. Alors, à quel moment, comment vous bossez? Est-ce que vous avez, il y a plusieurs cycles, hein. Il y a le cycle des fourmis, bien sûr. Il y a la fameuse pentalogie du ciel avec le cycle des dieux, le cycle des anges. Vous avez maintenant cette troisième humanité qui se termine. Et au fond, ça a fini par construire une sorte d'univers cohérent. Il y a d'ailleurs évidemment, on parle souvent d'Edmond Wells, mais des personnages qu'on retrouve dans divers endroits. Comment est-ce que, je sais pas, moi je me dis chez lui d'avoir une espèce de mur de 4 mètres de haut, de 30 mètres de large, avec un tableau synoptique, à quel moment comment vous vous mettez à travailler? Parce qu'il y a un moment donné où c'est vrai que les livres sortant depuis maintenant
une vingtaine
d'années, est-ce qu'il y a une sorte de... Comment vous avez construit cette fonction de cohérence qu'il y a dans l'ensemble de livres qui sont des fois plus spirituels, des livres, ça peut aussi être vrai de nouvelles, ça peut être vrai de plein de choses, mais il y a une vraie cohérence de votre œuvre qui se dégage avec les années.
Ah ben merci. Vous savez, moi je m'en rends pas compte. Hein. Je fais le truc au moment...
C'est un par un. Vous n'avez pas du tout... Mon tableau synoptique, c'est une pure...
Ouais. Normalement, je...
Vous faites ça, il y a trois volumes, non, hein. Vous
pas... J'ai expliqué, déjà, troisième humanité. Normalement, j'aurais dû crever il y a 3 ans. Ah. Et j'avais un problème de cœur et ils m'ont dit, c'est foutu. Et donc, j'ai commencé à réfléchir avec... il me reste quelques jours, quelques semaines.
C'est là que vous avez écrit le passage sur la météorite qui arrive.
Non, parce que ça c'est un passage qui n'est pas vraiment négatif. Mais c'est là où je me suis dit, j'aimerais... faire quelque chose qui donne une vision sur ce qui va arriver après. Et donc, j'ai commencé le premier volume, Troisième Humanité. Mais je suis pas mort. Donc, du coup, j'ai fait le deuxième volume. Et je suis toujours pas mort. Et puis, j'ai fait le troisième volume. Actuellement, la situation n'a pas bougé. J'ai une coronaire bouchée à 75%. Je fais beaucoup de sport pour pouvoir compenser ça. Puis... par contre, tous les matins, quand je me lève, je me dis « chouette, une journée de plus ». Et donc, il ne peut pas y avoir de plan général de mon œuvre. Il y a juste un livre qui suit l'autre. Mmh. Maintenant, le prochain livre qui va sortir en...
Alors voilà, vous enchaînez.
Le 1er octobre.
Avec le sixième sommeil, vous allez vous rencontrez, vous, 20 ans avant. C'est ça l'idée.
Mais c'est lié aussi à une chose, c'est que je suis resté pratiquement un an sans dormir. autre pépin. En fait, chaque fois qu'il m'arrive un pépin de santé, ça me donne l'idée d'un livre. Donc, la cohérence, elle vient de l'expérience de mon corps. C'est-à-dire, je vis la chose.
Vous dormiez pas parce que vous deveniez quoi, hypochondriaque à cause de votre problème de cœur, vous savez?
Non, je suis pas hypochondriaque, au contraire. Alors, mon problème de cœur, ça m'a entraîné
c'est pas de l'hypochondriaque.
Ça m'a entraîné un truc intéressant, c'est que je me suis mis à faire du vélo d'appartement tous les jours une heure. Et pour faire vélo d'appartement tous les jours une heure, parce que c'est ennuyeux si vous le faites comme ça, je me suis regardé des séries. Et du coup, tous les jours, je me fais une série. Je me suis fait une culture série. C'est génial. Vous regardez les séries aussi? Vous, ouais.
C'est quoi vos préférés?
C'est l'endroit où ça bouge. Dexter, à l'époque où Dexter est l'une des plus étonnantes dans le travail psychologique. Fargo, je ne sais pas si vous avez vu ça. Après tous les trucs historiques, Rome, les Borgia. Et là, depuis hier, j'ai découvert Narco sur la vie d'Escobar. C'est vachement bien. Je vous le conseille. Je fais de la pub pour les séries, vraiment, alors que je suis là un écrivain.
Ouais, mais c'est un type assez négatif, cet Escobar. Vous savez, je suis sûr qu'il a une vie étriquée, ce garçon.
Non. Escobar, ce qui est intéressant, je peux pas parler d'Escobar. Mon problème, c'est que tout m'intéresse. Et si vous me lancez dessus, je vais me lancer dans. En plus, tous les jours, j'écoute des émissions d'histoire et des émissions de science. Donc, j'ai un peu la tête remplie de mécanismes. C'est-à-dire, vous me faites parler du sommeil. Je parle du sommeil, Escobar, Napoléon, les puces. Mais ça commence maintenant à être une sorte de disque dur qu'il faut que je gère. Mm-hmm. Mais je n'arrête pas de le nourrir. Et donc. À cause de ce petit pépin, je me suis mis à faire du vélo. À cause du vélo et du pépin, je me suis mis à voir les séries. Ça aboutit à la troisième humanité. La troisième humanité est finie. Et maintenant, ce que je fais, c'est le sixième sommeil, parce que j'ai pas dormi pendant un an. Mais surtout aussi parce que j'ai découvert une petite application sur l'iPhone, enfin sur tous les smartphones, qui me permet de voir, de visualiser ce qui se passe durant mon sommeil. Et donc là, du coup, j'ai vu les cycles. Et j'ai vu... Parce que, en fait, vous fermez les yeux... Et vous attendez le lendemain matin de rouvrir. Mais au moment où ça rouvre, vous savez pas ce qui s'est passé. Et c'est un tiers de vos vies. C'est-à-dire un tiers de votre vie, vous ne savez pas du tout.
Si vous avez de la chance.
Pourquoi ?
C'est pas toujours un tiers. Un tiers, c'est tout.
C'est la moyenne. La moyenne mondiale, c'est...
8 heures quand même.
Ouais, ça correspond, voilà, à 8 heures. Ouais. 8 fois 3, 24. Donc c'est un tiers de votre vie. Et là, moi, je dois être ma moyenne est à 7h59 actuellement.
Ah.
Donc je suis dans la moyenne. Hein. Et donc, depuis que j'ai mis ce truc, ça fait donc 2 ans. Ça fait 2 ans, je le mets tous les jours. Et donc, j'étudie, j'essaie de voir comment je dors et qu'est-ce qui se passe durant mon sommeil. Et je commence par noter le rêve tous les matins. Et plus je note les rêves, plus ça devient facile. Qui c'est qui note ses rêves? 1. Qui c'est qui se rappelle de ses rêves? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui c'est qui ne se rappelle pas de ses rêves? Du tout. Aucun. Il y en a un. 1, 2, 3. Ensuite, qui c'est qui pense qu'il ne rêve pas? Personne. Ça va. Qui c'est qui prend des somnifères? Personne. Qui c'est qui dort mal? Voilà. Et c'est une zone, il me semble, d'exploration. C'est un endroit où actuellement... On s'est laissé à l'abandon et il peut y avoir réellement une recherche, une découverte et une amélioration de nos capacités d'imagination, de connaissance. C'est-à-dire en améliorant notre cerveau, nous pouvons participer à cette élévation que j'évoquais tout à l'heure. Donc après troisième humanité, qui est sur comment ça va se passer dans 20 ans ou dans 10 ans et dans 20 ans, sixième sommeil. Faut pas que je mélange les deux. Sixième sommeil, c'est sur notre capacité à faire de la spiritualité en dormant. Et moi, je pratique une chose. Il y a peut-être des gens qui font la même chose ici. C'est le rêve lucide. Qui c'est qui a déjà fait rêve lucide? Ah ben c'est toujours le même. Bon, rêve lucide, pour ceux qui connaissent pas, ça consiste à prendre conscience qu'on rêve. Et une fois qu'on est dans son rêve, on décide ce qu'on va rêver volontairement. C'est-à-dire, on fait les décors, on fait les personnages, on fait apparaître les gens qu'on a envie. Et c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la télé, c'est vous qui fabriquez, ou de regarder le cinéma, c'est vous qui fabriquez le film. Et ça m'arrive pas souvent. Ça a dû m'arriver en tout et pour tout 5 fois sur 2 ans que je surveille ça. Mais quand ça arrive, c'est très intéressant. tout d'un coup, vous pouvez tester des choses, vous pouvez aller voir des scénarios avec le décor et les personnages, et quelque part, votre imagination vous renvoie à la situation et vous pouvez la vivre. Et c'est vachement bien. Enfin, c'est le thème du prochain qui n'est pas encore en vente parce qu'il sort dans 15 jours, désolé.
Mais est-ce que certains d'entre vous, à ce stade, j'imagine que oui, ont des questions ? Parce que c'est comme si j'ai une rencontre.
Il y en a deux, mais madame a levé la main le premier.
Voilà. Alors, parlez assez fort, madame, parce que sinon je viens vers vous avec le micro.
Ouais, non, mais c'est bien que vous me permettez de préciser un peu ce message. Alors, d'abord, ce message se résume à une idée, c'est harmonie. Et la partie un peu difficile à faire passer, c'est que je pense qu'il faut un contrôle des naissances. Je crois que toutes les espèces s'autorégulent et que nous autorégulons pas, ce qui est politiquement complètement incorrect parce que on considère que la première liberté consiste à faire de la reproduction sans contrôle. Or, normalement, l'arrêt de la contrôle se fait par l'arrêt des aliments, mais là, grâce à la science, on est arrivé à produire des aliments. Donc, on est dans quelque chose qui est non naturel et qui va se retourner contre nous. Maintenant, ce message, je pense que les gens ne sont pas prêts à l'entendre encore, donc je le pose. J'ai déjà des réactions sur Internet, des gens qui font « Comment vous osez dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire autant d'enfants qu'ils veulent ?» Moi, je pense que déjà, si on s'en tenait à 2 enfants par famille, c'est-à-dire autant de personnes que d'enfants, ça serait très bien. C'est pas...
Toujours un de plus qu'en Chine.
Mais alors, j'ai vu ça en Chine. Non, mais en Chine, non, ils ont... Je veux répondre quand même, parce que j'étais en Chine et je l'ai vu. En fait, c'est 1 enfant pour tous les gens qui sont en ville. Et c'est 5-6 enfants, voire 7-8 pour la campagne. Voilà. Donc, parce qu'en campagne, c'est trop grand, ils ne peuvent pas contrôler. En ville, ils contrôlent. Voilà. Bon, donc, au final, ils sont officiellement 1,3 milliard et en réalité, 1,7 milliard de non-officiels. Donc, on a un problème qui va nous retomber sur la gueule. Et je ne suis pas sûr qu'en Suisse, même dans votre petite montagne, vous soyez épargné par le phénomène, parce que c'est une masse d'individus énormes qui consomment énormément et qui va à un moment devoir s'agrandir sur tout et prendre de partout des matières premières pour pouvoir continuer à avoir un niveau de vie qu'ils espèrent comme le nôtre. Donc ils veulent la télé, la voiture, et on n'a pas le droit de leur dire non. Mais s'ils sont très très nombreux, et pas seulement en Chine d'ailleurs, l'Afrique aussi je pense, ça va nous poser un problème. On commence à en voir des prémices. Maintenant les politiciens, n'osent, même les écologistes n'osent pas faire face au problème. Nous, en tant que romanciers, j'essaie de signaler, regardons dans quelques années ce que ça va donner par rapport à ce qu'on a, et on va probablement arriver vers ce petit souci. Donc le mieux, c'est de prendre le problème à la racine, vous voulez attendre que ça pousse un peu, ben, vous le prendrez quand ça sera déjà un arbuste, et puis, mais c'est pas vous le prendrez, c'est qu'on le fait comme si c'était nos enfants qui vont devoir gérer ça. Et c'est un cadeau un peu bizarre. Donc mon message, c'est laissons une planète intacte pour que nos enfants puissent avoir une planète viable et pour qu'on passe de la croissance, qui est une notion ancienne, à l'harmonie, qui est une notion qui me semble plus moderne.
Madame ?
Vous imaginez un seul politicien ? D'abord, il n'y a pas eu un seul. Le seul qui a osé dire ça, que je sache, c'est le Dalai Lama. Vous dire, il est isolé, il représente pas vraiment un État, mais vous voyez un type dire, écoutez, je crois que ça serait bien qu'on mette dans la Constitution que vous pouvez faire que 2 enfants, et si vous en faites un troisième, soit vous avez une amende, soit on vous demande d'avorter, soit on vous le prend pour en faire un soldat, je sais pas, mais je pense que personne, mais déjà interdire. Ben, c'est ce que j'essaie de faire. Vu qu'il y a personne qui a hurlé au moment où j'ai dit ça, a priori, enfin, ceux qui considèrent que ce que j'ai raconté n'est pas admissible n'ont pas osé me contredire. Mais j'ai l'impression, vous savez, c'est en regardant, par exemple, les fourmilières. Quand j'avais les fourmilières que j'ai mis dans mon aquarium, j'ai bien vu qu'au bout d'un moment, quand ils ont vu la limite de l'aquarium, ils se sont arrêtés de faire des enfants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, un politicien de l'ancienne forme ose dire ça, pour l'instant j'en vois aucun. En tout cas en France il n'y en a pas un seul, j'en ai pas vu un seul aux États-Unis. Aux États-Unis ils ont une réflexion sur le climat, ils ont une réflexion sur, il y a des types très pointus, mais en même temps c'est les plus grands pollueurs, alors ils ont le bon et le mauvais. Non, les plus grands pollueurs c'est les Chinois. Mais les Chinois, ils ont une réelle réflexion aussi là-dessus. Hein. Ils sont pas méchants. Ils sont juste par rapport à une mécanique qui a été lancée, qu'ils ne savent pas arrêter. Et moi, je crois que le plus tôt on prend conscience qu'il faut devenir raisonnable, donc passer de la croissance à l'harmonie, le mieux ça sera. C'est-à-dire, le plus tôt on commence à freiner, le plus ça sera facile d'arrêter la machinerie du toujours plus. Voilà. Autre question ? Ah. Oui ? Je vais faire comme ça, et puis après je repars comme ça.
Ah oui,
puis ça va scanner.
Je vais faire radar.
Oui. Oui. Ah. Vous dévoilez quelques éléments, vous spoilez un peu le bouquin, mais en effet, ma planète est une grosse cochonne qui a envie de baiser. Et voilà, maintenant tout le monde le sait. Et en fait, ce que je révèle, c'est une théorie qui existe réellement, qui s'appelle la panspermie, et qui signifie la fécondation par les météorites porteurs de codes, enfin, de protéines. Qui permettent la reproduction. Et ça se peut que ça soit comme ça que soit apparue la vie sur la Terre. Et donc, ça se pourrait que comme ça, ça réapparaisse à nouveau ou qu'elle se fasse féconder, comme j'imagine, parce qu'après tout, c'est une belle ovule. Et que sa pensée peut être... vous savez, la motivation de la plupart des êtres, c'est manger, dormir et la sexualité. Donc, je vois pas pourquoi la Terre qui mange et qui dort n'aurait pas aussi droit à une sexualité. C'est une forme d'énergie de vie qui se reproduit et qui permet de faire élever les choses et de faire avancer l'évolution. Voilà. Oui ? Changer de sujet ?
Oui, vous m'entendez ?
Levez-vous peut-être. Ça vous entend mieux. La voix porte mieux.
D'accord. Ma question, c'est concerne tous vos livres qui... Très souvent, à l'intérieur, vous mettez des références historiques. Et je voulais savoir qu'est-ce qui fait que dans certains livres, vous en mettez et dans d'autres pas. Parce qu'en fait, mes préférés de vos livres, c'est toujours ceux qui ont les références historiques dedans.
C'est ceux que vous préférez ?
Oui.
Ah, j'ai toujours peur d'ennuyer.
Alors, pas du tout.
Quand je mets de la science ou quand je mets de l'histoire, je me dis, il y a peut-être des gens qui, à l'école, sont tombés sur des profs rébarbatifs et qui se disent, oh là là, il nous refait le coup de notre prof. Je veux pas être docte. Voilà, mais j'essaie de trouver dans l'histoire les trucs les plus rigolos, pas connus, de faire aussi justice. Par exemple, dans, je sais plus si dans celui-là ou dans le précédent, je parle de Semmelweis. Semmelweis, c'est simple. J'étais une fois à Vittel et puis pas loin d'ici. Donc, je rencontre un grand scientifique et je lui pose cette question. Je lui dis, selon vous, quel est le scientifique qui a fait le plus de bien à l'humanité ? Et il me dit Semmelweis. Et du coup, je suis allé voir, et c'est le monsieur, si vous ne le savez pas, qui a eu l'idée, l'intuition, qu'il fallait se laver les mains avant d'accoucher les gens. Du coup, ça fait baisser la mortalité de 30%. Donc, justement, s'il y a une prolifération d'humains, c'est aussi un peu à cause de lui. Mais c'est grâce à lui, en tout cas, que les mères peuvent espérer que quand elles font 3 enfants, il y aura 3 enfants de vivants. Et en fait, après Semmelweis, il aurait dû y avoir un type qui dit, bon, bah, vu que Semmelweis permet à l'humanité, aux mères d'être sûr qu'il va y avoir des enfants en bonne santé, maintenant il faudrait devenir plus raisonnable et s'en tenir à 2. Donc l'histoire de Semmelweis m'a d'autant plus touché que le type s'est fait insulter toute sa vie, a été humilié toute sa vie. On parlait tout à l'heure du monde parisien qui me méprise, me tient à distance, mais
ils ont fini. Et
oui. Non, mais c'est parce que c'est tous des cons, mais sinon, je les aime bien. Non, il y en a des biens. Enfin, il doit y en avoir des biens. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, donc, je parlais de Semmelweis. Je pensais qu'ils
sont... Si vous en revenez à ma question qui était par rapport au thème historique dont vous...
Ah oui, historique. Oui, oui, donc j'aime bien l'histoire. Non, j'adore l'histoire, j'adore aussi rendre justice. Ah oui, non, Semmelweis, ça a mal fini, puisqu'ils l'ont chopé, ils ont pété la gueule, ils l'ont mis dans un asile de fous, et il n'a pas été soigné par des gens qui ne se lavaient pas les mains, et il est mort d'une infection. Voilà. Fin du truc. Donc, il me semblait que c'était le mec qui a fait le plus de bien à l'humanité, qui meurt battu comme un chien dans un asile de fous, et que le médecin qui l'a soigné n'ait pas eu l'idée de se laver les mains. Ça me semblait, ça me semblait quelque chose qui donne à réfléchir. Et puis, je crois qu'on met, on idolâtre les mauvaises personnes. C'est-à-dire, on désigne comme des gens bien, des gens qui sont pas très bien, et des gens ont mis dans l'ombre des gens qui mériteraient d'être reconnus. Donc c'est un sens de la justice qui ne fait pas l'histoire, pour répondre à votre question. Par exemple, je vais mettre en équilibre Semmelweis avec une autre personne qui me semble par contre pas bien, c'est Pasteur. Pasteur, c'est juste un intrigant de salon qui a voulu la gloire, la richesse, les honneurs, et qui a construit tout un système, il n'était même pas médecin, pour arriver à ça. Et du coup, il a réussi. En fait, ce que vous savez pas, c'est que ceux qui vous semblent sympathiques dans l'histoire, c'est ceux qui avaient la bonne agence de com et le bon biographe. Et le type, donc on prend la plus grande crapule, on met le bon biographe, et du coup, il dit, regardez, par exemple, la formule le roi soleil, ça a été inventé par le roi soleil lui-même. Il a dit, tiens, il faudrait une formule pour les générations suivantes qui parlent de moi et qui me disent, voilà, je suis lumineux, je suis le roi soleil, alors la com, vous me trouvez une com là-dessus. C'est comme ça que ça s'est fait. Et pour moi, le type qui a fait le plus de bien historiquement à la France, c'est Louis XVI. Qui a une image déplorable. C'est lui qui a arrêté la torture, la prison, les privilèges. C'est lui qui a permis la
conquête. L'édit de tolérance aussi.
Quoi?
L'édit de tolérance,
qui a autorisé les religions. C'est lui qui a permis toutes les colonies qu'on a eues. C'est lui qui a financé la révolution américaine. C'est le mec qui a fait vraiment avancer le pays. Et résultat, on le guillotine. Et l'autre, il se tapait les filles à Versailles qui s'est transformé en véritable lupanard.
Ça va, on peut pas tout reprocher quand même.
Louis XIV, une enflure. En plus, pas intelligent, parce que toutes les guerres qu'il a faites, il les a perdues. Donc le Nord, la Belgique, la Hollande, il a tout perdu. Il a ruiné la France. Il ne savait pas gérer les famines. C'est vraiment le couillon complet, le sale type, Louis XIV. Et le mec bien, Louis XVI. Mais un jour, je vais peut-être écrire sur...
Ça serait intéressant, ça.
Sur les deux. Mais surtout, voilà. Non, j'essaie, donc, pour répondre à votre question, j'essaie surtout de réhabiliter ceux que je pense intuitivement qui étaient des gens chouettes, avec des belles idées, et de ramener à leur juste place les salopards qui, souvent, avaient réussi leur campagne de com'. Vu qu'ils sont les plus riches et les plus forts, en plus, ils arrivent à faire croire qu'ils étaient super bien.
Voilà. Je propose la question du rêveur lucide.
Ah oui.
Attendez, je vais porter le micro.
Ami rêveur lucide.
Parce que sinon, on ne lui donnera jamais la parole, c'est toujours quelqu'un qui lève la main. Ce qui est...
Non, mais j'allais repasser par là, j'allais refaire la balance.
Bon, je pense que tout le monde devine la nature de ma question. Par rapport au rêve lucide, les rares fois où ça a marché chez moi, effectivement, c'était juste fascinant de se retrouver complètement propulsé dans un univers fantasmagorique. Mais à quel point c'est angoissant de se retrouver... propulser effectivement dans un univers un peu Lovecraftien, on n'a aucun repère et on a.
C'est Lovecraftien, si vous avez décidé que c'est Lovecraftien.
Ouais, hein. Mais c'est un exemple pour illustrer. Mais vraiment, un univers, on a. Mais justement, un univers, on n'a aucun accès à la réalité physique où tout est possible. À quel point c'est angoissant à nous qui sommes humains et qui avons besoin justement de repères et de structures.
Dès le moment où tu as décidé que c'est toi qui contrôle le décor, tu changes le décor.
Mais ça marche jamais vraiment comme ça.
Ah, alors c'était pas un rêve lucide. Le rêve lucide, tu as la maîtrise du décor. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé ton décor, tu circules dedans. D'accord? Donc peut-être que tu as choisi un décor Lovecraftien, puis tu te retrouves à circuler dans le décor que tu as choisi, tu dis, ah, mais c'est angoissant. Oui, bah change de décor. Tu changes de chaîne.
Mais j'ai l'impression que la chaîne ne se réalise jamais vraiment comme je l'entends, comme si j'avais qu'un accès partiel.
Est-ce que c'est toujours Lovecraftien?
Enfin, non, mais j'aurais pas dû prendre cet exemple.
Est-ce que c'est toujours un univers cauchemardesque?
Non, effectivement, c'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est angoissant, en tout cas pour moi, parce que j'ai pas mes repères. J'ai pas la maîtrise complète. J'arrive pas à dire que si.
C'est le thème du roman.
Si je fais un pas en avant, je vais pas tomber.
C'est le thème du roman, c'est justement apprenez à maîtriser. Mes héros apprennent à maîtriser le décor comme une nouvelle manière de. Une nouvelle spiritualité qui consisterait à maîtriser son sommeil. C'est pour ça, je sais pas, ça fait 400 pages, je vais pas le résumer d'un coup. Bon, alors au début, le héros se réveille. c'est déjà, c'est-à-dire que vu que vous avez, c'est comme si vous faisiez du vol en parapente. Vous faites un premier vol, vous dites oula, j'ai vraiment eu peur de tomber. Ouais, mais déjà vous avez fait un vol. Les autres n'ont pas fait de vol, donc ils n'ont pas peur de tomber. Ils n'ont pas eu le vertige. Ah, maintenant, vous dites, à chaque fois que je fais du parapente, je me dis, oh là, ça a l'air vachement dangereux. Mais c'est par la pratique, vous allez finir par maîtriser, comprendre comment ça marche, et au final, juste vous élancer en vous disant, chouette, je vole comme un oiseau. Et puis voilà. Tu réponds ?
Alors, attendez, je vais plutôt donner la parole à là-bas parce que vous Allez-y. Avez déjà eu une question.
Sélectionnez.
C'est la dure sélection naturelle.
Bonjour. Bonjour.
Juste une question par rapport au rêve éveillé que je ne connais pas. Mais est-ce qu'on peut rapprocher ça au somnambulisme ou est-ce que le mécanisme est un petit peu similaire quand même ?
Vous êtes somnambule ?
Oui.
Il y a combien de personnes somnambules ? Deux. Vous pourrez discuter déjà toutes les deux. Alors, je parle beaucoup du somnambulisme, donc c'est dans le prochain livre, parce que là, vous êtes arrivé un peu après, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Donc, je parlais du prochain livre qui s'appelle Le sixième sommeil, et j'explique qu'en fait, le somnambulisme, c'est quand vous êtes dans la phase de sommeil paradoxal, il y a normalement un petit produit qui est délivré, qui fait que il y a une zone du cerveau qui n'enclenche pas les gestes. C'est-à-dire quand vous faites un geste, ça ne se fait pas. Or, cette zone du cerveau n'ayant pas assez de ce liquide, je ne sais plus lequel c'est, sérotonine ou un truc comme ça, ça fait que vous allez faire vraiment le geste, vous allez le faire. Alors, votre question, c'était par rapport au somnambulisme ?
Somnambulisme, rêve éveillé,
Alors, le rêve éveillé, déjà...
Est-ce qu'on peut prendre le contrôle sur du somnambulisme comme on pourrait le faire dans un rêve éveillé ?
Ben, est-ce que vous avez fait du rêve éveillé aussi ?
Il me semble une ou deux fois, mais je n'ai pas des souvenirs.
Ben alors, l'intérêt, c'est... Alors, je vous conseille de prendre ce que je racontais. Vous avez la petite application pour voir ?
Je vais la télécharger.
Voilà. Alors, je n'ai aucun pourcentage dessus, mais tous ceux que j'ai testés, celui qui marche le mieux, c'est Sleep Cycle. On le pose sur le lit, il faut le mettre en mode avion. Pas s'envoyer des mauvaises ondes non plus. Et là, vous allez analyser ce qui se passe dans la nuit. Je sais que quand je me réveille, je regarde le chiffre de l'heure et je le note. Après, je m'endors et puis je regarde est-ce que le pic correspond. C'est ça qui m'a fait penser que le sleep cycle était fidèle. D'accord ? Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui vous voit en somnambulisme ? Vous avez un compagnon qui...
Oui.
Voilà. Et est-ce qu'il vous réveille ?
Il subit plus qu'il ne me réveille. Non, non.
Il quoi ?
Il subit un petit peu. Enfin, il essaye de...
Est-ce que vous quittez la pièce ?
Oui.
Est-ce que vous descendez dans la rue ?
Non, je descends... ma chambre est à l'étage, je descends d'un étage. En général, c'est quand je me retrouve dans le salon aéré un petit peu que là, je me réveille.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé un problème ? Vous avez déjà fait une bêtise ?
Non. Je me suis retrouvée une fois dans la rue, mais à part être désorientée... Oui.
Actuellement, alors on étudie de plus en plus le somnambulisme, et il y a une nouvelle maladie qui est apparue, qui commence à intéresser les gens. C'est en fait la boulimie du somnambulisme, c'est-à-dire c'est des gens qui descendent et qui mangent. Il y a personne qui a ça ici ? Si, vous hésitez un peu, non ? Alors, parce que...
entendu comme ça, on dirait une excuse à la con, hein, je veux dire.
Oui, je sais, mais c'est le problème, c'est pour ça qu'ils communiquaient pas dessus, parce qu'il y a, c'est des gens, notamment, s'en aperçu, des gens qui grossissaient, alors qu'ils mangeaient pas beaucoup, et on a trouvé le truc, c'est que en fait, ils étaient somnambules, mais il y a un gros problème avec ces gens-là, c'est que ils ont des rituels de mouvement par rapport à la nourriture dans lesquels ils intègrent pas forcément les vrais bons aliments. Par exemple, ils peuvent prendre un morceau de savon pour de la mozzarella. Ou ils peuvent se verser du liquide de vaisselle comme de l'huile. Et il y a un cas extraordinaire que je raconte dans le livre. C'est une femme qui descendait, qui se faisait des sandwichs avec des CD. Donc elle fait un CD, du fromage, des tomates, un CD. Et elle mettait le tout au four à micro-ondes. Et c'est son fils qui a entendu que ça crépitait dans la cuisine. Et du coup, on a commencé, il y a quelques scientifiques qui ont commencé à se dire, c'est peut-être une maladie particulière, la boulimie somnambulique. Voilà. Mais je parle du somnambulisme. Le fait que d'être sous le rêve éveillé et le somnambulisme, il y a forcément des liens. Maintenant, c'est vous dans votre vécu qui allez le vérifier. Maintenant, je crois que si vous fermez la porte, normalement, je pense pas, vous allez chercher les clés et tout, donc vous avez peur de sortir dans la rue. Et l'autre truc, je crois que c'est recette de grand-mère, c'est on met un bac avec de l'eau froide pour que la personne marche dessus. Est-ce que vous l'avez déjà réveillé ? Est-ce que vous avez déjà dit « reviens au lit, chérie » ouais. Et alors, elle fait quoi ?
Aucun succès.
Et ça marche ? Et vous l'avez déjà complètement réveillé ? Faut y aller doucement, quoi. Il faut pas... Bernard...
c'est
angoissant.
Crise d'angoisse, sinon.
Ouais. Bernard Verbet, on va malheureusement devoir s'arrêter là pour aujourd'hui.
Oh, mais enfin, juste ça commence. Ça,
c'est toujours comme ça, les bonnes conférences, c'est que c'est quand on a envie que ça continue. Or, vous êtes avec nous pendant 3 jours, oui. Vu que demain, dès 9h30, vous êtes au casino, ensuite vous êtes chez Manor à 16h30, dimanche, il y a une croisière à 12h45, vous êtes à 16h à l'Odéon. Donc, pour ceux qui veulent poursuivre ces discussions et avec vous, je crois qu'il y a d'autres possibilités
ici. C'est pas une dédicace maintenant ?
Oui, c'est sans doute, mais moi j'ai que les conférences sur ce petit papier.
Ah ouais.
Et donc je recommande à tout le monde le troisième.
Comme ça, je vous verrai un peu personnellement.
Le troisième épisode donc de la troisième humanité, donc la voix de la Terre. Mmh. Et puis, je vous remercie beaucoup parce que ça a été non seulement passionnant, trop court, et puis vous prouvez à chaque livre que non seulement la science-fiction peut être quelque chose de passionnant en littérature, mais que ça n'empêche jamais d'avoir de l'humour.
Ah, merci
beaucoup.
Merci à vous. Merci à vous.